Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans cet épisode spécial We Love Flashback, un podcast de We Love Cinéma qui met à l'honneur les Frères Dardenne, célébrés cette année au Festival Lumière. En effet, après Clint Eastwood, Miloš Forman, Martin Scorsese ou encore Wong Kar-wai, c'est au tour du remarqué duo belge de recevoir le prestigieux prix Lumière. Une distinction majeure pour leur cinéma âpre et rugueux qui a toujours refusé le pathos et la psychologie et qui a révélé de très nombreux talents, Émilie Dequesne, Jérémy Régnier et Déborah François entre autres. Les Frères Dardenne sont nés en Belgique, à Serein, sur les bords de la Meuse, une région ouvrière et industrielle qui sera le décor principal de leur œuvre à venir. Ils réalisent d'abord plusieurs documentaires vidéo avant de se lancer dans la fiction avec Falch, leur premier long métrage, en 1986. Mais c'est avec La Promesse, en 1996, qu'ils obtiennent la reconnaissance critique, le film étant présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. 3 ans plus tard, ils remportent la Palme d'Or pour Rosetta, décernée par le jury présidé par David Cronenberg, une Palme d'Or qui avait à l'époque fait pas mal de bruit et de polémiques. En 2005, ils remportent leur 2e Palme d'Or pour L'Enfant, rejoignant le club très fermé des cinéastes doublement palmés. Ils ont depuis présenté tous leurs films en compétition à Cannes, récoltant également un prix du scénario pour Le Silence de Lorna en 2008, le Grand Prix pour Le Gamin au vélo en 2011 et un prix de la mise en scène pour Le Jeune Ahmed en 2019, leur dernier film en date. Nous allons parcourir l'œuvre des Frères Dardenne en compagnie de Jean-Claude Monteil, qui fut collaborateur de cinéastes tels que Alain Guiraudy ou Jean-Paul Sivérac, et qui est aujourd'hui réalisateur pour l'INA. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accompagner dans ce numéro spécial We Love Flashback. Alors, Jean-Claude, est-ce que j'ai bien résumé votre...
Oui, ça va, oui, ça me plaît bien, oui.
Ça vous plaît bien?
Surtout Guiraudy, voilà, oui, ça résume bien ce que j'ai fait.
Et votre travail à l'INA, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors je suis considéré comme réalisateur, mais je fais surtout un travail de transmission, puisque j'ai fait beaucoup de casting, j'ai fait beaucoup d'accompagnement à la réalisation, beaucoup d'accompagnement à la direction d'acteurs, beaucoup d'accompagnement à la recherche de décors, et beaucoup d'accompagnement au montage, et tout ça, maintenant je le transmets à des jeunes de banlieue, et... pour leur faire découvrir ces métiers à l'image dans lequel il y a encore un peu l'ascenseur social qui marche et on peut y rentrer et devenir professionnel dans ce métier. Voilà.
Et votre rapport, on va en parler là en plus en détail, mais votre rapport direct aux Frères Dardenne, c'est quoi ?
Alors mon rapport direct, c'est que je découvre les Dardenne au moment... Alors moi je viens du théâtre, au moment où je suis convoqué par le cinéma français, c'est-à-dire que Jean-Paul Sivérac est en train de préparer son film Ni d'Ève ni d'Adam, son premier long métrage, et du coup je découvre les Dardenne à cette occasion-là. Donc du coup c'est mon entrée dans le cinéma. Je vais être directeur de casting, je le sais pas, j'ai jamais rien fait dans le cinéma, j'ai jamais joué dans aucun film, je suis cinéphile, hein, mais je ne parle de cinéma avec personne puisque tous les gens que je côtoie c'est le théâtre. Sivérac vient dans mon cours de théâtre que je fais en banlieue pour chercher des acteurs inconnus et jeunes. Et au même moment, je découvre les Dardenne. Et je découvre les Dardenne, moi, par Je pense encore à vous. Qui, je pense, est un intéressant... Alors, je ne sais pas si on en parle tout de suite. On peut. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Quand je découvre Je pense encore à vous, je découvre le cinéma... tel que Sivérac m'en parle, tel que les gens que je côtoie à l'époque du cinéma m'en parlent. En tout cas, et du coup, l'acteur modèle, on cherchait la recherche du modèle, alors que c'est pas du tout la question de... Sivérac m'en parle en disant, voilà, je ne veux pas d'acteur comme des acteurs jouent dans les films des Dardenne. Donc c'est Romain Renucci, c'est Fabienne Babb.
Oui, alors juste pour recontextualiser, Je pense à vous, c'est leur deuxième film.
C'est leur deuxième film.
Qui tourne en 92.
Voilà, et donc du coup, moi je les découvre avec ce film-là. Donc, et du coup, Sivérac me dit, voilà, je ne veux pas d'acteurs qui viennent du théâtre, je veux essayer de travailler sur quelque chose de plus réel, de plus documentaire. Et là, il me parle de l'acteur modèle, et donc on fait allusion à Bresson. Et donc je découvre les Dardenne là-dessus. Et effectivement, Renucci et Babb ne sont pas des modèles, ce sont des acteurs. Et je pense que ça va être pour moi, les Dardenne commencent là. Et du coup, La Promesse va être une révélation. parce que du coup, le travail que je suis en train de faire avec les acteurs que je vais chercher en banlieue, dans les cours de théâtre amateur et tout ça, puisque du coup, je m'adresse à aucun acteur professionnel ou semi-professionnel ou en passe de le devenir, du coup, la promesse devient un modèle en me disant « Ah oui, d'accord, c'est ce type d'acteur et ça existe et on peut le trouver, mais il faut chercher. »
Alors en effet, La Promesse sort en 1996 et révèle, malgré donc déjà deux longs métrages pourtant à leur actif, révèle vraiment le cinéma des Dardenne, un cinéma qu'on peut qualifier de prime abord de social. Il faut rappeler que La Promesse, c'est l'histoire d'un jeune garçon et de son père toxique qui exploite des sans-papiers dans la région de Liège, hein, le théâtre de tous les films des Dardenne. Alors le cinéma social, c'est ce qui colle un peu, le film social, c'est ce qui colle un peu à la peau des frères Dardenne, mais vous, Jean-Claude, vous n'avez pas tout à fait le même point de vue.
Oui, on peut dire, en voyant le film, on dit « Ah oui, ça parle de la société, ça parle de maintenant, ça parle de gens qui sont confrontés aux problèmes sociaux. » Mais, alors, ce qui est, moi, m'intéresse beaucoup chez les Dardenne, c'est qu'ils vont parler, ils vont faire des films sociaux, mais sans jamais citer le personnel social. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas de juge, c'est la personne dans son qui va faire l'expérience de sa condition et qui va être confrontée à un, et qui va se confronter à un événement qui va la faire changer, qui va la perturber. Et donc, du coup, dans La Promesse, c'est assez juste magnifique. C'est un enfant, enfin, le fils et le père, et non pas le père et le fils, c'est le fils. Parce que le film commence sur le fils. On est vraiment avec le fils, sur le geste du fils qui nous est présenté comme un voleur. Le premier geste, un des premiers gestes, il est mécanicien. Mais le deuxième geste, c'est qu'il vole le portefeuille de la personne dont il a réparé le moteur, et avec une gentillesse. Et il va y avoir cette chose étonnante, le coup de klaxon, en fait. Et là, le père arrive, dérange le fils. Et du coup, là, on est déjà dans une relation père-fils, mais qui ne va pas du tout être psychologisée, et pas psychologisante du tout. Et on va assister à la relation père-fils dans l'action de... Voilà, de la maltraitance du migrant, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et là, c'est le père. Il n'y a pas du social. D'ailleurs, le fils n'est pas pris en main par le service social, le père n'est pas pris en main par la justice. Et au moment où la justice pourrait. Le flic débarque sur le chantier, c'est très très court, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Et j'ai l'impression que c'est une constance dans les films des Dardenne, ce qui fait que c'est des films en action tout le temps, mais jamais sans le. Constat du social, c'est-à-dire le travailleur social qui va dire « c'est pas bien ce que tu fais, on va te remettre dans le droit chemin, on va... » Non, c'est le personnage, et là, en l'occurrence le personnage de Jérémy, incarné par Jérémy Rémier, qui va tout seul faire le travail.
Donc les frères Dardenne sont dans cette mouvance du cinéma social malgré tout. Ils sont aussi dans la lignée d'autres cinéastes qui au même moment tournent des films dits sociaux. Je pense aux cinéastes britanniques Mike Leigh ou Ken Loach. Mmh. Mais pourtant, il y a quand même certaines différences, et notamment chez Ken Loach, où il peut parfois être accusé ou en tout cas critiqué par son manichéisme, il n'y a pas de ça chez les frères Dardenne.
Alors, en tout cas, beaucoup moins que chez Ken Loach. Et puis, chez Ken Loach, il y a le travail, enfin, il y a l'employé social, il y a l'ANPE, je dois rendre des comptes et tout ça. Chez les Dardenne, non. Il n'y a pas de, je rends compte à personne, si ce n'est à moi-même. Enfin, et je ne sais pas que je vais devoir me rendre compte à moi-même. C'est-à-dire que les gens sont, que ce soit Jérémy Régnier, même le père, hein, il est pris dans son activité. Rosetta, complètement prise dans son activité. Le fils, Olivier Gourmet
et qui joue le père dans le fils.
Voilà, qui joue le père dans le fils est complètement pris dans son activité, mais de travail, de prof, et qui va chercher à reconfronter. Enfin, c'est assez beau dans le fils d'ailleurs, parce que c'est comme si Gourmet retravaillait sa relation de père avec son enfant disparu, quoi. Avec le meurtrier de son enfant, il retravaille la relation père-fils, quoi. Et donc, du coup, il n'y a jamais de dogme là-dessus, c'est toujours du déplacement. Alors que chez. Mais même chez Sivérac, en fait, il y a une recherche de ça, pour revenir dans le franco-français, il y a une recherche de l'acteur modèle qui va être livré à une expérience. Et même, je dirais, il y a l'acteur modèle vierge de cinéma, livré à sa première expérience de cinéma, livré à son premier rôle, qui va devenir acteur. C'est-à-dire que. Dans cette génération-là, il y a aussi ça chez Laurent Achard, c'est-à-dire je prends des acteurs qui sont trop jeunes pour avoir une formation quelconque, et je pense que dans les castings, c'est important. C'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont même pas pris de cours de théâtre, et ils vont créer leur premier personnage sans savoir qu'ils vont le créer. C'est un peu, on est vraiment, pour moi, dans la fabrication du film de cette période-là des Dardenne. Et de ça, ils vont devenir star ou pas, enfin, parce que certains ne deviennent pas stars, on ne devient pas toujours star chez les Dardenne, quoi. Donc du coup, c'est une espèce d'expérience de première fois, de sincérité, de plénitude et d'engagement qui est vraiment belle dans la promesse chez Jérémy Régnier. Je crois qu'il...
Oui, il faut rappeler que c'est son... Enfin, il est totalement découvert, hein, par ce film.
Complètement. Hein. Et mais d'ailleurs, enfin, c'est assez beau de voir, de revoir les films. Sa dentition qui n'est pas totalement formée. Enfin, je pense que tout ça, ça compte. Et on va le retrouver en permanence chez les Dardenne.
D'autres films, oui.
Voilà. L'acné. Parce que...
On le voit grandir.
On le voit grandir. Sens, et je dirais même, au sein du film, on le voit grandir. C'est-à-dire que je pense que... Alors, je pense qu'il ne le fait pas, lui. Mais au sein du film, on voit qu'il devient un acteur, qu'il a une pratique de ça. Et même, il y a peut-être des soupçons de petits sourires, d'amusement déjà de l'acteur qui prend possession de et du rôle et du cinéma, en fait. Et voilà, et là, il ne sait absolument pas qu'il va devenir un acteur, une star, en fait, parce qu'on peut dire, oui, un acteur connu. Et du coup, je pense que là, on évite le social. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas conscience qu'il joue un rôle social, il est pleinement dans le rôle. Et là, en ça, on est dans le cinéma américain, en fait. L'acteur ne dit pas qu'il joue. Alors à cette époque-là, dans le cinéma français, l'acteur a toujours une tendance à dire « je joue, c'est pas moi, hein, dans le cinéma français. Non, je suis un acteur, je suis pas un prolétaire, je suis pas pauvre, je suis pas... » Alors chez les Dardenne, non. On oublie ça, tu es le rôle, et du coup, ça donne... On enlève le social, en fait. On est complètement dans la chair, et alors eux, alors là, ça va très très loin, puisqu'on est carrément dans le gros plan. Enfin, la promesse, c'est... On est dans le visage de Jérémy Régnier, et on est très souvent... visage, geste, geste, visage, dans des panneaux, tout est lié comme ça, ce qui peut aussi devenir un défaut, hein, par moment. Parce que...
Alors, en effet, le cinéma, la part sociale de leurs films est très très prégnante. Dans pratiquement tout leur long métrage, donc dès La Promesse, ça pose, on va dire, clairement les enjeux. Évidemment, il y aura Rosetta, où cette jeune fille, donc campée par Émilie Dequesne, est une. Alors, comme le dit lui-même d'ailleurs Luc Dardenne, j'aime bien cette phrase, une guerrière qui ne s'avoue jamais vaincue, qui repart toujours à l'attaque, parce qu'elle est en permanence à la recherche d'un emploi. Il y a également, c'était déjà en toile de fond, plus qu'en toile de fond d'ailleurs, dans La Promesse, mais Le Sort des migrants, on le retrouve aussi dans La fille inconnue, La clandestinité, Les sans-papiers, dans Le silence de Lorna également. Et puis, l'aspect, la dureté, on va dire, de la vie économique, de la vie sociale, elle est aussi chez ce personnage, enfin incarné par Marion Cotillard dans Deux jours, une nuit, où elle a deux jours, une nuit, en l'occurrence, pour convaincre ses collègues de renoncer à leur prime afin qu'elle garde son emploi, qui est aussi un film sur l'exclusion sociale en temps de crise économique. Il faut rappeler que les Dardenne ont commencé par des documentaires sur la lutte ouvrière, sur l'exclusion. Donc, cet aspect de déclassement, on le retrouve dans toute leur filmographie, quasiment.
Oui, c'est même la construction, mais je dirais même la construction du plan. C'est-à-dire que le paysage qui est filmé, c'est un paysage en déconstruction. C'est-à-dire qu'on est dans l'usine qui ferme, on est dans la perte de l'emploi, on est dans le déclassement, on est dans la relation impossible homme-femme. D'ailleurs, c'est un cinéma où on couche très peu ensemble, par exemple. C'est pas le...
Oui, c'est tout sauf un cinéma charnel.
Charnel, hein,
on est très très loin.
Et je dirais même le paysage n'est pas charnel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de froideur, de brouillard permanent. Enfin, alors ça peut être érotique, hein, je dis pas ça, mais je dis pas que c'est contre-érotique. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans la froideur, on est dans la présence aquatique. La Meuse, c'est quand même pas glamour, quoi. Et quand ils tombent dans la Meuse, on se dit que vraiment, c'est pas les vacances. D'ailleurs, ils y tombent habillés, d'ailleurs. Et du coup, alors, c'est là où moi, j'ai été très surpris et très marqué par Rosetta, un extrait qu'on diffusera peut-être, mais quand elle est toute seule dans le lit, c'est-à-dire qu'elle dit « Je m'appelle Rosetta ». Alors, je vais pas vous le citer précisément, hein, mais « Je m'appelle Rosetta, j'ai trouvé un ami ». Et elle dit... Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Rosetta. Elle se pose au même. Elle est confinée contre le mur, face au mur. Elle ne regarde pas le mur. Le plan est très serré et tout ça. Je pense que c'est un des moments d'intimité que les Dardenne cherchent. Les Dardenne cherchent et travaillent. Enfin, on est dans la proximité, dans le visage. Et dans tout un coup, je peux me parler à moi-même. C'est comme si ce cinéma, c'était comment je vais arriver à m'affronter, à me confronter à ce que je suis et cesser cette guerre contre moi-même. Parce que Rosetta, alors c'est marrant parce que c'est toujours fils, père, et là Rosetta c'est fille, mère. Parce que la mère est, même si on la voit peu finalement, hein, on la voit peu, mais le rapport à la féminité, à la mère, tu bois, je ne veux plus que tu boives, tu baises, alors là, mais on ne voit rien, pareil, hein, c'est-à-dire que je pense, dans beaucoup de cinémas, on verrait l'acte de la mère, et il y aura un jugement porté. Là, on l'a pas. Et c'est dans le, on est tout le temps dans le regard de Rosetta qui regarde les choses. Et on est toujours chez les Dardenne, souvent, c'est le personnage qui nous est donné comme personnage principal tout de suite dès le début du film. Et on est tout le temps dans son regard et on va passer, on va glisser à son geste. Mais on a pas forcément le contre-champ, en fait, de ça. Et ça, c'est, pour moi, c'est un cinéma qui n'est, voilà, qui peut faire oublier le contre-champ.
Mais est-ce que c'est un cinéma, comme parfois on l'a un peu dit, qu'on peut taxer de misérabiliste ?
Je crois pas. Ben, je pense même
parce qu'il est quand même sur la misère sociale aussi.
Oui, mais c'est pas parce qu'on est, on travaille un sujet sur la misère sociale. Je sais pas si, enfin, il faudrait rediscuter de la misère sociale. Parce que oui, ce sont des gens qui sont en perte. Oui, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Et tout ça, dans le film, le figure. C'est-à-dire, on n'a pas de costumes de riches. On a même rarement des costumes. Même les gens qui devraient être les plus costumés, ils sont quand même dans des costumes... on n'est pas dans du Pierre Cardin. On est plutôt du costume Monoprix. Enfin, de bas de gamme, quoi. Et du coup, mais tout est travaillé. C'est-à-dire qu'il est impossible de parler du cinéma des Dardenne sans parler de la couleur des costumes. C'est-à-dire que, sur le gris de la Meuse, Jérémy Régnier a une veste rouge. Rosetta a un t-shirt rouge. Enfin, il y a un vrai travail des couleurs, il y a un vrai travail mais quasi impressionniste de ça. C'est-à-dire qu'au gris, on ne va pas mettre du gris, en fait. Donc, il y a dans le gamin au vélo, il est en t-shirt rouge. Enfin, Cécile de France est dans des robes à fleurs. Alors, dans les tons gris et tout ça, c'est ça.
Oui, c'est très étudié. Ouais.
Tout ça est très pensé. L'absence de maquillage, alors, c'est assez marrant parce qu'on peut penser qu'il n'y a pas de maquillage, il y a un maquilleur. Au générique, toujours. Donc il y a bien une épreuve du maquillage. Mais tout ça va être... Le maquillage n'est pas pour recouvrir. Alors je pense que le maquillage, c'est la blessure, la mini-blessure, c'est la larme qui coule, c'est des détails. Mais il y a un maquillage. Donc il y a vraiment... Enfin, tout ça est apprêté. Et je pense que le plan est répété. Enfin, je ne sais pas comment il travaille.
Justement, nous allons en parler tout à l'heure avec le producteur. Des Frères Dardenne. Alors, cette réalité sociale, elle est donc particulièrement prégnante et elle inspire directement les Frères Dardenne, puisque ils ont raconté un souvenir de tournage sur le film Le Fils. Voilà ce que racontent les Frères Dardenne. Nous étions à Serein, rue de Molinet. Le matin, l'après-midi, le soir, nous avons vu passer et repasser une jeune fille poussant un landau dans lequel dormait un nouveau-né. Elle semblait ne pas avoir de destination, juste marcher en poussant le landau. Souvent, nous avons repensé à cette jeune femme, à son landau, à l'enfant endormi et à celui qui n'était pas là, le père de l'enfant. L'absent qui allait devenir important dans notre histoire. Une histoire d'amour qui est aussi l'histoire d'un père. Là donc, il résume en quelque sorte le synopsis de ce qui va devenir l'enfant en 2005, qui est donc l'histoire d'un couple qui a un jeune nouveau-né et le père va décider de vendre l'enfant. C'est peut-être l'un de leurs filles films les plus marquants dans ce qu'il nous parle d'une réalité sociale qui va très très loin.
Oui, alors c'est là où je parle plus de social parce que ce qui est marquant pour moi, c'est comment parce que le film nous présente, le début du film nous présente Jérémy Régnier comme quelqu'un qui commet des effractions, enfin quelqu'un qui vend, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait de l'argent et tout est monnayable. Et dans un deuxième temps, son fils arrive, enfin l'enfant qui regarde à peine. Et ce qui est amusant, c'est là où on sort déjà du social. C'est-à-dire qu'on nous présente un personnage et qu'on n'imagine pas avoir un fils. Enfin, dans les quelques minutes qui vont suivre. Et la rencontre, quand la mère arrive avec le fils, la mère et le père qu'il est devenu, d'un coup, rejoue comme des adolescents et comme des enfants. Et là, pareil, ça nous sort du social, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans une misère, on est dans un système parallèle, une société parallèle, dans laquelle je vis, dans laquelle... Et du coup, je ne suis pas dans le système social. Et pareil, elle, on sait très peu de choses sur son origine sociale. On sait qu'elle a un appartement. Donc du coup, elle a les moyens de payer un appartement. On sait qu'elle héberge. On sait aussi que lui, pendant son absence, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas soucié de l'accouchement. Il a loué l'appartement. Pour se faire de l'argent. Donc c'est un garçon qui vend tout. Donc on n'est pas dans un, on n'est pas dans une description sociale. C'est-à-dire, et on est sur les bords de la Meuse. Enfin, le paysage va s'inscrire au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'on va découvrir ce père qui n'est pas père, qui n'est pas père, qui ne veut pas l'être, et qui va finir par le devenir.
Allô?
Oui.
Nous on était d'accord, puis il a changé d'avis.
Vous ne pouvez pas téléphoner ici.
Je sais. Une seconde. Et c'était une infirmière qui était à côté de moi. Oui, c'est à cause de ça qu'elle est à l'hôpital. Elle était d'accord au début, puis elle a changé d'avis. C'est pas de ma faute. Oui. Je sors. Vous serez là quand elle se... Vous serez là quand elle se réveillera?
Oui.
Vous pouvez lui dire que je... que Bruno va chercher Jimmy et que je reviens avec lui.
Je lui dis que vous revenez avec Bruno?
Non, Bruno, c'est moi. Jimmy, c'est le bébé dont elle parlait quand elle délirait. Enfin, dites-lui que tout va bien se passer. Et
on vient d'entendre un extrait de l'enfant donc, des frères Dardenne, un extrait, je crois, Jean-Claude, qui vous est particulièrement cher.
Oui, parce que c'est ce qu'on vient de nous entendre. Le père est à l'hôpital, il ne peut pas parler à sa compagne, qui n'est pas sa femme, hein, qui a fait un évanouissement et qui est sous assistance respiratoire. Et là, c'est comment il va récupérer l'enfant qu'il a vendu. Et comment il ment à nouveau sur le mensonge qu'il a déjà fait. Donc, il est confronté à tous les mensonges qu'il a fait et le film va basculer à ce moment-là dans une autre histoire. Et là, on est vraiment dans la bascule aussi du personnage qui devient. Enfin, les personnages ne sont jamais inhumains. Mais là, il est passé de l'autre côté du miroir. Et même s'il n'a pas tout à fait conscience, il est encore en action. Hein, il doit récupérer l'enfant pour sauver son couple, pour sauver cette femme, pour ne pas aller en prison et tout ça. Et il va le faire, et il va... Ça y est, mais il est dans la démarche, je passe de l'autre côté du mur, je passe de l'autre côté de la délinquance, et je prends conscience que là, j'ai fait un geste. Je suis allé... Alors, je sais pas s'il est allé trop loin. En tout cas, pour nous, spectateurs, oui, il est passé... il revient à un homme, quoi.
Un homme, un père, surtout. Et un père, donc, cette relation, justement, père-fils, elle infuse vraiment toute la filmographie des frères Dardenne, du père toxique de la promesse, à celui qui ne peut pas se venger de l'assassin de son fils dans le fils. Les deux pères étant d'ailleurs incarnés quand même par Olivier Gourmet, il faut en dire un mot, puisque c'est quand même l'acteur clé, selon moi, de leur filmographie. Et puis, donc, également, l'enfant qui veut retrouver son père, qu'il a abandonné dans Le gamin au vélo, joué par Jérémy Régnier, qui donc était à deux doigts aussi d'abandonner son bébé dans l'enfant. Donc c'est vrai que cette relation, elle est prégnante tout au long de leur œuvre.
Oui, et alors c'est père et absence de père, et même l'ultra-présence de père finit par être une absence. C'est-à-dire que la promesse, le père est bien là, hein. Mais c'est pas le père attendu, enfin, c'est...
c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Peut-être que c'est le vrai père, en fait. C'est peut-être le vrai père qui permet l'expérience.
Qui ne veut pas d'ailleurs se faire appeler papa, hein. Il se fait appeler Roger, je crois.
Appelle-moi Roger.
Roger. C'est vraiment une...
Oui, c'est pas papa. Ouais. Dès qu'il dit papa, Roger.
Ouais. Donc, ouais.
Et ça, c'est assez beau. Et en même temps, c'est quoi le père? Enfin, il y a une vraie question. Mais comme c'est quoi la mère, hein. C'est-à-dire que parce que du coup, on peut faire le même constat avec Rosetta. C'est-à-dire que, mais Rosetta dit maman. Et on peut faire la même histoire avec Cécile de France et le gamin au vélo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mère. Le couple est un peu... Parce que quand elle, c'est très beau, la scène où Cécile de France choisit entre Cyril... Je crois que c'est Cyril, l'enfant, le gamin au vélo. Hein, c'est Cyril. Et son amant, homme, en fait. Et où il lui dit, mais il faut que tu choisisses, c'est lui ou moi. Et là, il y a un temps... C'est peut-être un des grands moments où la caméra ne bouge absolument pas. C'est lui. Et là, alors c'est assez, assez beau, parce qu'on se dit, mais parce que là, tout nous est donné pour dire, mais arrête avec ce gosse. Enfin, passe tes week-ends peinards. Enfin, voilà. Et non, elle fait le choix, alors quasiment de maternité. C'est mon enfant, il est à moi. Il y a un truc comme ça assez, et que je trouve que Cécile de France, parce qu'il faut en parler de l'entrée de Cécile de France dans le cinéma des Dardenne, parce qu'elle l'abandonne là. La belle Cécile de France, comme son nom pourrait l'indiquer, comme les rôles qu'on lui a donnés jusque-là, là, elle est coiffeuse, et avec peu de maquillage, ou en tout cas un maquillage de coiffeuse, en tout cas. Et elle ne surjoue pas la coiffeuse. Ça, c'est assez étonnant. Et comment elle établit... Enfin, parce que moi, je crois que c'est très, très difficile de jouer avec un enfant, et beaucoup d'acteurs témoignent de ça, mais comment il y a quelque chose de une filiation très forte entre Cyril et elle à ce moment-là du film. Et à plein moment, enfin, il y a un très beau moment où Cyril est collé au robinet et elle cherche la communication avec lui, et pour appeler son père, on va appeler le père, elle lui fait relever la tête. Elle est d'une dignité, enfin, et d'une force assez incroyable, que je ne l'ai pas vue ailleurs, en fait.
Alors, pour en venir à la relation père-fils, il y a une scène peut-être qui pourrait, Jean-Claude, résumer cette relation, c'est à la fin de la promesse, donc quand Jérémy Régnier se détache enfin de l'ombre paternelle si envahissante pour lui.
Il l'attache, le père.
Dans une scène, à mon avis, une des scènes les plus fortes de toute leur filmographie. En quoi elle est révélatrice, ça, cette scène-là, du rapport au père?
Mais parce que le père attaque à nouveau. Et alors, ce qui est assez beau, c'est que le père arrive dans les rames, on ne sait pas son intention. Tel qu'Olivier Gourmet était...
Alors, juste, je recontextualise à ce moment-là du film. Jérémy Régnier donc veut sauver une femme sans papier qui est logée, entre guillemets, par le père qui est quand même...
Marchand de sommeil.
Voilà, qui est un marchand de sommeil assumé, on va dire. Et donc, il sait que cette femme va très mal finir, que son père va être complice de ça. Et donc, pour lui éviter ce triste sort, il va lui dire la vérité. Et le père, on ne sait pas à ce moment-là, il recherche son fils, et on ne sait pas, en effet, à ce moment-là, quelles sont vraiment ses intentions, mais il est quand même toujours dans une menace diffuse, assez inquiétante.
Oui, et là, du coup, le personnage de Jérémy Régnier, dont j'ai oublié le prénom, mais est en train de réparer la statuette...
Igor
est en train de réparer la statuette caste que cette femme africaine porte toujours avec elle et à qui elle fait des dons, et donc cette statuette est présente chaque fois qu'on voit la femme africaine dans le logement de sommeil, et donc elle a été cassée, et donc Igor recolle la tête dans le garage dans lequel il était lui-même apprenti, donc il est très concentré à son œuvre, donc encore une fois le travail, les mains, le geste est important, il entend un bruit, et le père apparaît, et là, la gueule du père, on se dit, ça va être un festival. Et effectivement, Igor ne va pas laisser le temps et va partir en courant. Et là, une bagarre. Alors ça, c'est bon, là, il faut parler de la bagarre parce que dans tous les Dardenne, il y a une bagarre. Et cette bagarre se passe à même le sol. C'est un corps à corps et à même le sol, et plutôt un sol ou boueux ou le sol du garage plein de crasse, de graisse et tout ça. Et les deux corps vont être maculés. Et là, on se dit Igor n'a pas la taille de son père. Enfin, là, Gourmet, quand on dit Igor va perdre, et là, on a très peur. Et en fait, non, la chose se renverse. Et la chose se renverse parce que la femme vient donner un coup de pied dans les parties sensibles du père qui s'effondre. Et là, le fils attache le père. Alors, c'est plus beau, enfin, plus beau que ça, puisque le fils court vers la femme migrante qui lui dit, viens, on va partir ensemble. Et là, il lui dit, non, 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 je l'ai attaché. On ne risque plus rien, on a le temps. Et là, le père va se réveiller et va crier « Igor, détache-moi, Igor, détache-moi, Igor, détache-moi, je te donne de l'argent pour elle, je ne te ferai pas de mal, détache-moi. » Et il y a une chose très... Alors ça, les Dardenne sont très fortes. Le père a perdu ses lunettes. Et il dit « Non, mais donne-moi mes lunettes au moins. Donc il faut que je voie, il faut que je te voie. Mmh. » Et il y a tout ça. Et là, le fils tend les lunettes et lui dit « Igor, détache-moi, je te ferai rien. Je suis ton père. Et là, ta gueule, trois fois. »
Dis-lui, j'ai de l'argent pour son retour. Pour elle, tout ce qu'elle veut. Igor, attends, je t'en supplie, attends. Je vais lui donner ça, je te le jure. Elle partira où elle veut, mais détache-moi. Pourquoi tu veux lui dire? À quoi ça l'avancera de savoir? Elle part, puis on n'en parle plus, c'est fini. Donne-moi mes lunettes au moins. C'est pour toi l'immeuble, moi je m'en fous. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi que je l'ai fait. J'ai jamais pensé qu'à toi. T'es mon fils.
Ta gueule!
Cette scène donc que nous venons d'entendre, qui est une des plus fortes, hein, des, à mon avis, des films des Frères Dardenne, elle est aussi d'un réalisme très prégnant. Voilà comment Jean-Pierre Dardenne justement décrit cette envie de réel. On est ancré dans une réalité que l'on veut montrer, mais en même temps, on veut faire du romanesque. Alors comment aller dans la fiction tout en gardant le brut des gens, en filmant à la brosse plutôt qu'au pinceau, en n'ayant jamais une caméra démonstrative, militante, en ne posant jamais les personnages dans les situations? Ils n'ont pas le temps, alors la caméra non plus. Je trouve que c'était un assez juste résumé de ce que c'est que le de filmer le réel chez les frères Dardenne. On connaît maintenant leur style naturaliste, qui est proche du documentaire. On rappelle qu'ils ont démarré par le documentaire, qui privilégie les gestes. Jean-Claude, vous en avez déjà un peu parlé, de cette importance des gestes, des attitudes. Filmées, bien sûr, caméra à l'épaule, cette caméra qui colle au personnage, qui les filme souvent de dos, cette obsession du mouvement, incarnée tout ça par des acteurs qui, en tout cas, au départ, n'étaient pour la plupart pas des acteurs professionnels. Cette envie de filmer le réel, elle est très convaincante quand même, non, dans les films des frères Dardenne.
Oui, alors, ce que j'aime beaucoup dans la citation de Dardenne que vous venez de faire, c'est que le mouvement, je crois qu'il faut entendre ce mot parce qu'il est prégnant quand on regarde un film de Dardenne. C'est-à-dire que la caméra bouge, l'acteur bouge, et je pense que pourquoi, une des raisons pour lesquelles Olivier Gourmet a la Palme d'Or.
Le
prix d'interprétation, c'est que Olivier Gourmet, dans le film, ne cesse de courir, ne cesse de marcher. Il est essoufflé en permanence. Et là, je pense que c'est une manière d'aborder l'acteur, c'est-à-dire d'effacer toute psychologie. Et donc, du coup, l'acteur épuisé laisse échapper encore plus que quand il est reposé. Et ça m'amène à dire que chez les Dardenne, on n'aura jamais de scène de table, quasiment. De scène, ce qu'on a dans le cinéma français bien connu, on est à table, on mange, on boit, et puis les plans, les contre-champs, enfin voilà. Chez les Dardenne, on n'a pas. Hein. C'est personnage en mouvement, caméra en mouvement. Alors, ça peut aller jusqu'à l'excès. Donc, le mouvement est important dans le plan des Dardenne, le mouvement de l'acteur, le mouvement de la caméra, et alors, c'est là où la force du romanesque intervient, parce que c'est très structuré et dans l'information que le spectateur doit percevoir et dans comment le personnage va définir son urgence. Et dans Rosetta, là, cette scène magnifique de Rosetta vient à la baraque à Gaufres et elle est invitée par cette nouvelle rencontre qui lui propose de faire les gaufres pour elle et donc d'avoir un travail au noir. Et là, Rosetta va dire « Non, le travail au noir n'est pas un vrai travail, je veux un vrai travail. » Et là, c'est le moment de bascule dans le romanesque de Rosetta, c'est-à-dire qu'elle va décider à ce moment-là de dénoncer cet homme qu'elle a appelé son ami pour piquer son travail. Et là, vraiment, on est vraiment dans le roman, quoi. C'est-à-dire que c'est inattendu, et c'est très écrit, c'est très pensé à ce moment-là, à cet endroit-là du film, et le film bascule.
Entre. Entre. C'est chaud, ça te fera du bien. Je pourrais faire la pâte de mes gaufres à ma place. J'en vends 10 par jour. Ça fait plus ou moins 15 000 francs par mois. Là, t'auras un travail.
En noir, c'est pas un vrai travail.
En attendant, c'est toujours ça.
C'est ouvert ?
Non, dans 5 minutes ! Je prends rien, t'as tout pour toi. Ça t'intéresse ou pas ?
Non. Ce que je veux, c'est un vrai travail.
Et certes, ils filment le réel, mais tout cela est quand même scénarisé. Ils ont d'ailleurs reçu également un prix du scénario, toujours à Cannes, pour Le silence de l'orna.
Oui, et puis quand on regarde les films... Enfin, alors, j'ai pas fait l'expérience, hein, mais je pense que si on regarde un film d'Ardenne chrono en main, et qu'on prend un manuel le plus banal d'écriture de scénario, je pense qu'on a tous les temps qui sont les 8 minutes de présentation, les 15 minutes l'événement je sais plus comment on dit en scénario, mais déterminant pour le scénario, à 25 minutes, je sais pas quoi, à 45 minutes, je suis à peu près sûr qu'on a, et on a le retournement à la fin, avant les 5 minutes, dernières minutes, enfin on a tout, enfin c'est extrêmement écrit, alors peut-être pour revenir en arrière par rapport à Je pense encore à vous, où il y avait beaucoup de dialogues, là par contre le scénario des derniers, moi j'en ai jamais eu entre les mains, je serais curieux d'en avoir, mais je ne sais pas comment c'est écrit parce qu'il y a très peu de dialogues, parce qu'un scénario ça peut faire des pages avec le dialogue, parce que ça prend beaucoup de pages, chez eux il y a très peu de dialogues. Et je ne sais pas s'ils travaillent sur l'improvisation ou pas, ou si c'est très écrit, vraiment, et ils demandent aux acteurs d'apprendre le dialogue.
Alors justement, on va poser cette question, entre autres, au producteur des films des Frères Dardenne, Denis Fred, qui est avec nous par téléphone. Denis Fred, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans We Love Flashback. Alors, vous êtes le producteur des films des Frères Dardenne depuis un certain nombre d'années maintenant. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous les avez rencontrés ? Comment s'est passée cette rencontre avec les Frères Dardenne ?
Oui, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés autour d'Armand Gatti. Jean-Pierre et Luc donc travaillaient l'un comme assistant réalisateur, l'autre comme assistant opérateur. Et moi, à l'époque, je travaillais à l'Institut national d'audiovisuel et on coproduisait certaines expériences multiformes d'Armand Gatti. Et nous nous sommes rencontrés comme ça à la fin des années 70. Et c'est l'époque à laquelle on commençait, en plus comme ça de leur travail avec Armand Gatti, à faire des vidéos militantes, des documentaires. Voilà, et on est devenus très amis depuis cette époque.
Et ensuite, donc, vous êtes mis à produire leurs films ?
Non, parce qu'en fait, on a eu des parcours un peu parallèles. Moi, j'étais donc à l'INA. Eux ont commencé à réaliser. Quand eux sont passés à la fiction, moi j'ai créé ma propre société, mais je produisais surtout du documentaire. Et en fait, on se retrouve en 2000. Je présentais le premier long métrage que j'avais produit comme producteur indépendant, qui était Saint-Cyr de Patricia Mazui. Et je vois Luc à Bruxelles. Il venait de faire Rosetta et d'avoir la Palme d'Or. Et Luc me dit, mais pourquoi on ne travaille pas ensemble ? Et donc, ça a été le début de notre collaboration donc avec le fils, qui a été terminé en 2002.
Voilà, jusqu'au Jeune Ahmed, dernier film en date.
Au Jeune Ahmed, voilà, sorti, mais je n'ai pas participé à la production de leur première fiction.
D'accord.
Fall, Je pense à vous, La Promesse et Rosetta.
Comment ça se passe, hein, une préparation d'un film des Frères Dardenne? Comment se passe le casting, la préparation? Est-ce que c'est très très en amont? Est-ce que c'est une longue période? Est-ce qu'au contraire, quand un projet est lancé, bah, finalement les choses vont assez vite? Comment ça se passe?
Alors déjà, c'est très en amont, puisque nous échangeons beaucoup avec Jean-Pierre et Luc, déjà, sur l'idée de leur film suivant. Donc très en amont, il me parle d'envie, de fragments d'histoire, de personnages. Parfois, d'ailleurs, il y a des histoires qu'ils abandonneront ou qu'ils reprendront quelques années plus tard. Voilà, mais on échange très, très en amont. Et puis, une fois que Jean-Pierre et Luc ont choisi le sujet, là, ils commencent vraiment à travailler tous les deux. Ils échangent en permanence. C'est Luc qui tient la plume, mais qui fait lire périodiquement à Jean-Pierre. Et lorsqu'ils sont parvenus à une version qui les satisfait, à ce moment-là, ils me donnent à lire, ainsi qu'à leur productrice côté belge, hein, parce qu'ils ont quelqu'un qui est Delphine Thompson, qui est productrice exécutive au film du Fleuve. Et donc, nous échangeons tous les quatre, mais sur une version déjà très élaborée.
Et une fois que vous êtes concerté, entendu sur le scénario, donc il y a le casting, la préparation. Le casting dure un certain temps, parce qu'ils sont quand même connus pour avoir révélé des acteurs presque dans chaque film, hein, qui en plus ensuite ont eu une belle carrière. Comment ça se passe au niveau du casting, par exemple ?
Au niveau du casting, si vous voulez, quand ils choisissent des acteurs connus, s'ils décident de confier un rôle à Olivier Gourmet, à Marion Cotillard, à Jérémy Régnier, à Adèle Haenel ou Cécile de France, voilà, ils font un choix, on en parle, mais ça c'est vraiment leur choix. En revanche, quand ils font le casting d'inconnus, là c'est pareil, comme ils sont deux, parfois ils voient des centaines de jeunes actrices ou de jeunes acteurs, et c'est vraiment à la fin du processus, quand ils en ont retenu deux, voire trois, qu'ils vont me montrer et qu'on va en parler.
D'accord. Et là, l'avis du producteur dans ce moment-là est important, j'imagine. C'est une vraie...
L'avis du producteur peut compter parce que parfois ils hésitent,
oui.
Si vous voulez. Parfois ils peuvent ne pas être totalement d'accord, enfin avoir une hésitation entre eux. Mais si vous voulez, ils sont tellement sûrs quand même de leur conviction par rapport au film et puis maîtres de leur art, que ça ne les inquiète jamais d'avoir l'avis de quelqu'un. Bon, il se trouve qu'en plus, on s'entend bien, hein, enfin, on s'entend profondément par rapport aux questions de cinéma. Mais si vous voulez, vous avez des réalisateurs qui ont peur d'être déstabilisés, d'être influencés, qui se protègent. Avec les frères Dardenne, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment échanger, et puis après, ils décideront.
Comment se déroule le tournage, et quelle est leur méthode de travail ? Comment vous la définiriez ?
Je la définirais déjà comme un goût immodéré pour le travail, et une capacité d'anticipation très grande. C'est-à-dire que très en amont, ils envisagent absolument toutes les questions. C'est vrai que voilà, ce sont d'immenses cinéastes, mais ce sont aussi de grands producteurs. Donc, ils connaissent absolument tous les problèmes, ils anticipent, que ce soit pour le choix des décors, pour la constitution de l'équipe, etc. Et après, ils préparent. Alors, ils commencent par, une fois qu'ils ont fait leur casting et qu'ils ont leur décor, ils vont répéter tous les deux dans les décors avec une petite caméra pour chercher leur plan. Donc, voilà, ils sont juste tous les deux et ils voient comment ils vont découper, s'ils vont construire un plan séquence, enfin voilà, comment ils vont faire dans les décors. Ensuite, ils demandent toujours un temps de répétition important, y compris, voilà, des actrices ou des acteurs très confirmés. Donc, en général, il y a au moins un mois de répétition avec les acteurs dans les décors, enfin avec les acteurs principaux. Et ensuite, chaque matin, avant de tourner les scènes correspondantes, ils vont re-répéter avec l'acteur. Mais si vous voulez, ils ne vont pas chercher à reproduire ce qu'ils ont pu imaginer quand ils étaient tous les deux ou avec les acteurs, mais ils ont une base très très forte dont ils pourront s'éloigner en fonction de ce qui se passe ou de ce que l'actrice ou l'acteur propose. Mais dans leur tête, ils savent exactement, ils ont le cadre, ils savent ce qu'ils veulent, ce qui aussi leur donne une liberté s'ils veulent, voilà.
Mais
inventé au dernier moment, mais c'est très très préparé au niveau du découpage technique et du jeu.
Ce qui est intéressant, ce que vous dites, parce que cette préparation justement presque à l'extrême, elle pourrait paraître presque antinomique avec cette volonté de réel dont nous avons parlé juste avant, cette authenticité qui est là. Au contraire, tout cela est finalement très préparé et cette préparation permet justement, semble-t-il, cette authenticité devant la caméra.
Voilà, c'est cette préparation extrême qui finalement leur permet de capter la vie. Parce que, et ils savent ce qu'ils cherchent, si vous voulez, ils ne font pas partie de... Voilà, il y a des cinéastes, vous ne savez pas trop pourquoi ils font un certain nombre de prises, pourquoi ils arrêtent, pourquoi ils continuent. Les frères cherchent quelque chose. Et quand ils l'ont trouvé, ils s'arrêtent. Mais ils se donneront le temps. Je veux dire, s'ils doivent faire 20 fois, 30 fois, 50 fois la prise, s'ils doivent recommencer le lendemain parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais et voilà, ils savent très précisément ce qu'ils veulent faire advenir dans le rapport entre les corps des acteurs et leurs caméras.
Et leur rapport aux comédiens, justement, est-ce qu'ils sont les mêmes quand ils choisissent un acteur inconnu, totalement, ou est-il le même qu'avec Marion Cotillard ou Cécile de France ?
Totalement. Totalement. Ce sont vraiment les acteurs qui rentrent dans leur façon de fonctionner, de travailler, et qui se prêtent au jeu. Voilà, vous citez Marion Cotillard, elle a répété pendant un mois, ça s'est extrêmement bien passé, et il n'y avait pas de différence par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, bon, sauf que c'est Marion Cotillard, et qu'après, en termes, bien sûr, de jeu, ou de proposition, mais sinon, c'est vraiment la même méthode de travail.
Alors, cette méthode de travail, elle est aussi, on va dire, elle est en correspondance avec leur façon de faire, puisqu'ils tournent pratiquement toujours dans les mêmes endroits, au bord de la Meuse, hein, c'est quasiment le décor de tous leurs films. Ils sont toujours, ils n'ont jamais voulu pour le moment changer complètement de registre, je ne sais pas, faire une comédie musicale par exemple, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les Dardenne vont nous surprendre et vont tourner, alors peut-être pas un film en Amérique, j'en sais rien, mais quelque chose de totalement différent?
Écoutez, en termes de lieu, de décor, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils sont, ils implantent leurs histoires dans ce décor de cette cité post-industrielle de Serein, dans les environs de Liège, autour de la Meuse, comme vous dites. Et ça, pour l'instant, en tous les cas, je ne les vois pas changer. Ils ne l'excluent pas. Ils ont envisagé d'autres choses, mais c'est vrai que pour l'instant, à la fin, quand même, ils reviennent dans ces lieux. Après, moi, je trouve que les histoires qui racontent sont extrêmement différentes. Il y a quand même une grande diversité dans leur cinéma. Mais sur cette question, oui, des décors et du lieu des histoires, je ne suis pas certain qu'ils s'éloigneront des lieux de leur enfance.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Dardenne, on le sait peut-être moins, sont aussi producteurs et coproducteurs avec leur société Les Films du Fleuve. Et ils ont produit, alors ils sont, je crois, en coproduction sur leurs propres films, mais ils ont été aussi producteurs de films aussi remarqués que L'Exercice de l'État, de Rouillé-Dos, Baccalauréat, Le Couperet, Rouge aussi, je crois, de Farid Bentoumi qui va sortir prochainement. Qu'est-ce que c'est justement ça fait de travailler d'un producteur avec des réalisateurs qui sont eux-mêmes producteurs?
Alors, je dirais que c'est plus une question pour le cinéaste que pour le producteur. Donc, comme vous dites, les frères Dardenne sont producteurs. Ils ont été producteurs de documentaires au travers de leur association des Rives. Ils sont producteurs de films de fiction avec Les Films du Fleuve et encore une fois avec Delphine Thompson, qui s'occupe beaucoup, beaucoup des coproductions minoritaires. Mais alors, la question, si vous voulez, bien sûr, ils lisent les scénarios, ils font des remarques sur le scénario. En général, ils voient les films en cours de montage ou vers la fin du montage. Mais après, c'est vrai que ça peut gêner certains réalisateurs. Il y en a qui sont très en demande d'avoir le retour de Jean-Pierre et Luc sur leur travail. Il y a d'autres réalisateurs, si vous voulez, qui considèrent que c'est plus une coproduction qui sont moins à la recherche forcément d'un dialogue artistique. Parce qu'il travaille aussi avec de très, très grands cinéastes. Donc ça, c'est très variable.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Denis Fred, de nous avoir accordé cette interview. Donc, je vous rappelle que vous êtes producteur des films des Frères Dardenne, qui sont donc honorés cette année au Festival Lumière. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir apporté votre éclairage sur l'œuvre des frères Dardenne.
Merci à vous Antoine.
Et nous avoir accompagné durant cette émission. Et merci aussi chers auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr voir ou revoir l'ensemble des films des frères Dardenne en Blu-ray et DVD. Vous pouvez retrouver cet épisode Flashback Loves les frères Dardenne sur weloveCinema.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.